Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso et Anne Albertson, voici les titres de ce jeudi 19 novembre.
Attentat de Paris, 8 arrestations et le mystère Abaoud qui plane après l'assaut de mercredi à Saint-Denis. L'état d'urgence renforcé en vote à l'Assemblée nationale.
Les bombardements français en Syrie, accentués depuis dimanche, se poursuivent contre le groupe djihadiste État islamique. Le groupe a annoncé l'exécution de 2 otages chinois et norvégiens.
Au Nigeria, au moins 15 personnes tuées et plus de 50 blessées hier dans un double attentat à la bombe à Kano, la grande ville du nord du pays.
À Kinshasa, en République démocratique du Congo, plusieurs étudiants ont été blessés, dont au moins un par balle lors de heurts avec la police.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Tout d'abord, le journal. Abattu par la police française ou en fuite, le sort d'Abdelhamid Abaoud, cerveau présumé des attentats de Paris, reste ce matin incertain. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Les enquêteurs français avaient recueilli lundi un témoignage faisant état de la présence d'Abaoud en France. Ce témoignage, qui a fait l'objet de nombreuses vérifications téléphoniques et bancaires, a abouti à l'assaut contre l'appartement de Saint-Denis. 8 personnes ont été arrêtées, mais ni Abdelhamid Abaoud, ni Salah Abdeslam, autres suspects clés, n'en font partie, a déclaré le procureur de Paris, François Molins.
Le raid est parvenu à interpeller 3 individus, dont un était blessé par balle au bras. Une explosion a ensuite retenti, révélant la commission d'une action kamikaze, que l'explosion était consécutive à une femme ayant activé son gilet explosif. Au total, 8 gardes à vue. Cependant, je vous précise que Abaoud et Salah Abdeslam ne font pas partie des gardés à vue.
Les enquêteurs doivent désormais identifier les corps retrouvés sur place, sévèrement abîmés par des fusillades nourries et des explosions. Le ministère français de l'Intérieur n'a pas exclu qu'un 3e terroriste ait pu être tué au vu des morceaux de corps retrouvés. La possible présence en France d'Abdelhamid Abaoud, tête d'affiche du contingent des djihadistes francophones de l'État islamique, inquiète. Son nom avait été évoqué par les services de renseignement américains dans un rapport au mois de mai qui mettait en garde contre une possible attaque structurée de l'État islamique en Europe. Le document émettait l'hypothèse qu'Abaoud avait tenté de faire croire à sa mort à la fin de l'année 2014 sur le front syrien afin que les autorités belges relâchent leurs efforts pour l'appréhender.
Et c'est dans ce contexte pesant que les députés français votent aujourd'hui un projet de loi renforçant l'état d'urgence décrété par le président François Hollande au moment des attaques. Le texte devrait recevoir un large assentiment de l'Assemblée avant d'être soumis vendredi au vote du Sénat en vue d'une adoption définitive.
Les bombardements français en Syrie, accentués depuis dimanche, se poursuivent contre le groupe État islamique. Le groupe djihadiste a annoncé l'exécution de 2 otages chinois et norvégiens au moment où son fief en Syrie, Raqqa, était la cible de raids russes et français qui ont tué 33 de ses combattants en 72 heures. D'autre part, le groupe État islamique a diffusé une nouvelle vidéo menaçant New York et plus spécifiquement Times Square. La police locale a indiqué être au courant, mais qu'il n'y avait pas de menace actuelle et spécifique.
Les États-Unis ont offert 5 millions de dollars de récompense pour toute information qui conduirait à la capture d'un djihadiste d'origine saoudienne chargé de faire passer des combattants étrangers en Syrie. Tirad al-Jarba, connu sous son nom de guerre Abu Muhammad al-Shimali, est un membre important du groupe djihadiste État islamique selon le département d'État. Il est qualifié de terroriste par les États-Unis et les Nations Unies qui ont de ce fait gelé ses avoirs et imposé une interdiction de voyager. Selon l'ONU, il est âgé de 35 ans et est un ancien membre d'Al-Qaïda.
La Russie a présenté mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU une nouvelle version de son projet de résolution antiterroriste. Et ce tandis que la France continue de peaufiner un texte en réaction aux attentats de Paris. Paris qui espère faire adopter ce texte dans les prochains jours afin de fournir une réponse unie de la communauté internationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Nigeria, au moins 15 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées hier lors d'un double attentat à la bombe à Kano, la grande ville du Nord, Claire Morin-Gébourg.
Moussa Magaji Magia, porte-parole de la police de Kano, a affirmé que 2 jeunes filles âgées d'environ 11 et 18 ans se sont fait exploser au Farm Center GSM Market, un marché de téléphones portables de la métropole du nord du Nigeria. La police a bloqué les entrées et sorties de la ville pour tenter de retrouver le minibus qui a transporté les deux kamikazes. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais Boko Haram est pointé du doigt. Ce double attentat intervient au lendemain d'une attaque qui a fait 32 morts à Yola, dans le nord-est du pays. Le président Muhammadu Buhari a qualifié ces attentats de Kano et de Yola d'actes lâches et barbares. Il a appelé à renforcer la vigilance pour stopper ces attaques contre les civils et a réaffirmé sa détermination à anéantir Boko Haram.
La lutte contre les islamistes de Boko Haram a été minée par la corruption au sein même de l'armée nigériane, a regretté le président Muhammadu Buhari après avoir reçu un rapport d'une commission spéciale sur ce sujet. Il a ordonné que tous ceux impliqués dans des contrats frauduleux d'achat d'armes et d'équipements qui représentent plusieurs milliards de dollars rendent des comptes, affirme un communiqué de la présidence publié après la réception de ce rapport.
À Kinshasa, plusieurs étudiants ont été blessés, dont au moins un par balle, lors de heurts avec la police. On fait le point avec Edine Sango.
Pour la deuxième journée consécutive, des étudiants ont manifesté dans la capitale congolaise. Hier, c'était les tours de ceux de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Leur manifestation s'est soldée par des heurts avec la police. Des sources médicales affirment avoir enregistré au moins un blessé par balle. La police a confirmé son intervention, mais soutient qu'il s'agissait plutôt de ramener les calmes. La veille, il y a eu aussi des échauffourées à l'Institut national des bâtiments et des travaux publics au nord de la ville. Des étudiants protestent contre la hausse des frais de scolarité. Cette année, ils doivent débourser 435 dollars, alors que l'année dernière, ils payaient 320 dollars, sans parler du coût des logements et des livres.
Au Cameroun, c'est lundi dernier que Thierry Batoum a été arrêté et placé en garde à vue. Le président de l'ADEC, l'Association pour la défense des droits des étudiants du Cameroun, principale organisation étudiante du pays, est accusé d'avoir appelé à une marche de protestation, laquelle a finalement été annulée. Le point avec John Linden.
Maître Hippolyte Mélie, avocat de l'étudiant, a indiqué à l'AFP que son client est visé par une plainte pour incitation à la révolte. Thierry Batoum a été interpellé par des éléments en civil de la police du campus alors qu'il appelait les étudiants à prendre part à une marche silencieuse et pacifique mercredi pour protester contre le système de cartes payantes dans les universités du pays. Selon l'ADEC, chaque étudiant de l'université de Yaoundé 1 est obligé de payer 2000 francs CFA pour avoir droit à sa carte, qui coûte encore plus cher, jusqu'à 3500 francs CFA dans les universités de Douala et Boya. Le mois dernier, l'ADEC avait adressé une lettre ouverte au premier ministre Philemon Yang sollicitant son intervention. Pour l'organisation, le paiement de 50 000 francs CFA de frais de scolarité suffit et exiger une dépense supplémentaire pour l'octroi d'une carte d'étudiant est une véritable extorsion de fonds aux parents déjà appauvris par les conditions de vie très difficiles.
L'Union africaine a de nouveau demandé devant les États membres de la Cour réunie à La Haye que les poursuites contre le vice-président kényan soient abandonnées. Menée en particulier par le Kenya, l'UA a déjà accusé la Cour à de nombreuses reprises de cibler les Africains de manière excessive. Toutes les enquêtes de la CPI se situent en effet sur ce continent, tout comme une majorité des examens préliminaires, étape préalable à l'ouverture d'une enquête.
Au Mali, l'association Dental Fakala réagit contre l'arrestation par l'armée malienne d'Alaï Bokari Dia. Selon cette association, M. Dia n'a rien à voir avec le FNL d'Amadou Koufa. De Mopti, Mamadou Bokoum nous éclaire sur ce dossier.
Selon l'association Dental Fakala, Alaï Bokari Dia, qui avait été arrêté la semaine dernière par l'armée malienne, n'a rien à voir avec le Front pour la libération du Massina. À en croire un des responsables de cette association, Alaï Bokari est leur vice-président et l'association Dental Fakala lutte contre le vol du bétail et l'abattage clandestin des animaux. Elle œuvre aussi pour la promotion de l'élevage dans le Fakala. Selon lui, leur vice-président n'a jamais raté une de leurs réunions mensuelles. Il est même présent dans leur réunion extraordinaire, a-t-il ajouté. Puis c'est Alaï Bokari Dia qui a représenté leur association au Festival des Peuls organisé tout récemment à Wenkoro. Le seul tort de cet homme, selon notre interlocuteur, c'est de s'opposer à ce qu'il a appelé des pratiques malsaines des autorités maliennes à l'égard de la communauté Peul. Voilà pourquoi on l'a dénoncé pour qu'il puisse être mis hors d'état de nuire, nous a-t-il rassuré. Selon ce responsable, Dental Fakala est à pied d'œuvre pour obtenir la libération de leur vice-président avant d'ajouter que tout Peul n'est pas membre de FLN comme le pensent les autorités et l'armée malienne. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Tout de suite, c'est la Minute Écho avec Anastasie Tudiech.
En Éthiopie, Bell, le producteur du fromage La Vache qui rit et le brasseur Castel ne collaboreront pas. Le groupe Bell, qui s'était appuyé sur le spécialiste de la bière pour se développer en Éthiopie, a fini par lasser son partenaire à cause de ses hésitations. Un abandon étonnant, la consommation de produits laitiers et de fromage dans la région progressant de 4% chaque année. En Afrique du Sud, 6 milliards de rentes, environ 389 millions d'euros, c'est ce que souhaite investir BMW pour transformer son usine de Rosslyn près de Pretoria afin de fabriquer le nouveau modèle de berline BMW série 3, des modèles très prisés par les marchés nigérians, kényans et tanzaniens. Lancée en 1973, l'usine de Rosslyn est la seule usine de production de BMW en Afrique. Et en 2014, le groupe a écoulé environ 2 118 000 voitures dans le monde pour un chiffre d'affaires de 80,4 milliards. Afrique du Sud toujours, avec la compagnie aérienne South Africa Airways, SAA, qui a un nouveau directeur général, le 7e en 4 ans. Première mission de Moussa Zouane, finaliser la renégociation d'une commande de 10 Airbus A320 pour la transformer en leasing de 5 appareils A330, un projet qui permettrait à SAA d'épargner 1,4 milliard de rentes, soit 92 millions d'euros.
On retrouve les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Tatiana.
Le feuilleton des élections à la Fédération camerounaise de football connaît mercredi un nouvel épisode.
Oui, selon Foot Africa, le ministère camerounais des sports n'a pas suivi l'avis du Comité national olympique et sportif qui préconisait l'invalidation des élections ayant porté Tombi Roko Sidiki à la présidence de la FECAFOOT. Selon Foot Africa, le gouvernement camerounais, par le biais d'un communiqué du ministère des sports, a rejeté l'invalidation du 10 scrutin par le Comité national olympique et sportif camerounais. L'organisme consultatif estimait en effet que les statuts de la FECAFOOT adoptés en juin 2015 n'étaient pas conformes à la loi camerounaise et avait déclaré illégales les élections ayant porté Tombi Roko Sidiki à sa tête. Affaire donc à suivre.
Corruption à la FIFA, le président de la Fédération chilienne de football démissionne.
Oui, Sergio Jadot a présenté hier sa démission selon la FFC, la Fédération chilienne de football, qui a jugé insatisfaisante ses explications sur sa possible implication dans le scandale mondial de la corruption autour de la FIFA. Sergio Jadot s'est rendu mardi aux États-Unis avec sa famille pour y passer, selon lui, des vacances pour 6 mois. Mais plusieurs médias chiliens ont affirmé qu'il allait en fait rejoindre un programme de protection des témoins de la justice américaine dans le cadre de la vaste enquête pour corruption autour de la FIFA.
Le joyau de la Liga se joue samedi.
Oui, c'est le classico, hein, Real Madrid-FC Barcelone qui se joue bien ce samedi dans la capitale espagnole avec un dispositif de sécurité draconien, plus de 1500 policiers selon l'AFP.
Le rugby pleure un de ses plus grands joueurs de l'histoire.
Oui, l'ailier néo-zélandais Jonah Lomu est décédé à l'âge de 40 ans d'une crise cardiaque. C'est un talentueux athlète sur l'aile, imposant et très rapide, ce qui était du jamais vu dans le rugby. C'est ce qu'a déclaré le mythique entraîneur de l'équipe d'Angleterre sacrée en 2003, Clive Woodward.
La NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Juste pour indiquer que les Houston Rockets ont limogé ce mercredi leur entraîneur Kevin McAuley après un début de saison 2015-2016 très décevant de 4 victoires pour 7 défaites. Tatiana, je vous laisse donner les résultats de la soirée.
Brooklyn s'incline 111 à 116 face à Charlotte. Dallas l'emporte 106 à 102 devant Boston. Indianapolis s'est imposé avec 112 points contre 85 pour Philadelphie. À Atlanta, Atlanta était vainqueur avec 103 contre Sacramento. Minnesota perd 101 à 104 face à Orlando. Portland s'incline 103 à 108 face à Houston. La Nouvelle-Orléans a perdu, elle, face à Oklahoma City, 103 à 110. Denver a également perdu 98 à 109 face à San Antonio. Et enfin, Toronto aussi a dû s'incliner 89 à 93 face à Utah.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Toujours avec vous, Tatiana Mosso, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Un quartier populaire de Bruxelles est au cœur de l'enquête sur les attentats de Paris. Beaucoup de combattants du groupe État islamique sont originaires de la Belgique, qui fait face du coup à une montée de l'extrémisme. Jacques Aristide.
Molenbeek, quartier central de Bruxelles, est au centre des enquêtes de police. Le Belge Abdelhamid Abaoud, cerveau présumé des attentats qui ont fait 129 morts à Paris, a grandi dans cette commune. Deux frères, Brahim Abdeslam, qui s'est fait exploser vendredi près d'un café parisien, et Salha, qui fait l'objet d'une vaste chasse à l'homme, ont également vécu dans ce quartier. Le Belge Claude Moniquet est expert en renseignement.
Molenbeek est une commune qui a été longtemps laissée, je dirais presque à l'abandon. Et dans cette population, une frange radicale, pas très importante, on parle de quelques pourcents, mais réelle. Et depuis des années, c'est-à-dire depuis 20 ou 30 ans. On a donc vu s'installer à Molenbeek des gens qui sont devenus des espèces de chefs de file de l'islamisme radical, non seulement en Belgique, mais en Europe.
En 2001, les assassins d'Ahmad Shah Massoud, ce commandant afghan anti-taliban, avaient séjourné à Molenbeek. Un des principaux artisans des explosions en 2004, à Madrid, avait lui aussi vécu dans ce quartier. En 2014, 4 personnes ont été abattues dans l'attaque d'un musée juif à Bruxelles et le principal suspect était passé par Molenbeek. En août dernier, Ayoub El Kazani, qui avait tenté de mener une attaque armée dans un train et qui a été maîtrisé par des soldats américains, était lui aussi resté dans ce même quartier. Sajan Gohel, spécialiste de questions sécuritaires à la Fondation Asie-Pacifique.
La Belgique a un gros problème avec ses citoyens qui se radicalisent. Beaucoup d'entre eux ont rejoint volontairement le groupe État islamique et même le groupe Jabhat al-Nusra.
D'après lui, les terroristes exploitent l'ouverture des frontières européennes sous l'espace Schengen.
Nous voyons une connexion entre la Belgique et la France en matière d'activités terroristes exploitées par le groupe État islamique.
Bruxelles affirme avoir déjoué plusieurs attentats, mais la pression monte pour que la Belgique anéantisse l'extrémisme radical planté au cœur de la capitale politique de l'Europe.
À la suite des attaques de Paris, la France a lancé des bombardements en Syrie, des bombardements intenses sur des cibles supposées appartenir à l'État islamique. Mais que bombarde-t-on concrètement et quels sont les résultats? Laurent Bonnefoy a répondu à John Linden.
On prétend bombarder des positions stratégiques, notamment des camps militaires. Les résultats ont sans doute tardé à se manifester pour la bonne et simple raison qu'on a effectivement assez peu de leviers sur place. C'est pas à long terme ce que cela va produire. Si depuis bien plus d'un an qu'une coalition a été lancée contre l'État islamique, on a obtenu peu de résultats, il est très probable qu'on continue à en obtenir quasiment aucun, si ce n'est des résultats contre-productifs, à savoir toujours davantage de radicalisation et de rancœur à l'égard de l'Occident. Ça me semble hautement contre-productif. Il se trouve que la décision de bombarder a sans doute pour l'essentiel une fonction interne, voire électoraliste, pour le gouvernement à l'approche des élections qui veut montrer ses muscles d'une certaine manière.
Est-ce que ces bombardements ne vont pas attiser plus de violence et pousser les fidèles de ISIS à commettre plus d'attaques dans les grandes capitales? Washington, par exemple, a été menacé.
Oui, c'est vraiment un des risques aujourd'hui. Il est assez triste, je dirais, de constater que les limites de la guerre contre le terrorisme, qui a manifestement été un échec, les limites de l'expérience en Irak des États-Unis et de l'expérience internationale en Afghanistan n'ont pas été intégrées. Personne, d'une certaine manière, n'a voulu retenir la leçon. Il est faux aujourd'hui de penser que plus on bombarde au Moyen-Orient ou en Afghanistan, plus notre sécurité en Europe ou aux États-Unis est assurée. Et c'est même en général le contraire qui se passe. La pire chose à faire que de penser qu'on a en Syrie que le choix entre l'État islamique et Bachar al-Assad.
Alors qu'est-ce que la France, les États-Unis ou d'autres pays doivent faire pour éviter des actes comme ceux qu'on a connus en France?
Il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est de court terme, un niveau sécuritaire qui est un contrôle plus précis d'un certain nombre de militants, une surveillance d'un certain nombre de sites internet. Mais ça, c'est, je dirais, des solutions qui sont court terme pour empêcher aujourd'hui des gens qui souhaitent commettre des actes de violence. Et puis après, il faut aussi réfléchir au long terme.
C'était Laurent Bonnefoy au micro de John Lyndon. Et le budget du groupe terroriste État islamique est estimé à plus de 2 milliards de dollars pour 2015, soit le groupe terroriste le plus riche de la planète. Au début financé par de riches partisans des monarchies du Golfe, ses profits tirés de la contrebande du pétrole s'établissent à quelque 600 millions de dollars par an. Les djihadistes financent le terrorisme grâce notamment au trafic d'œuvres d'art et aux taxes prélevées dans les villes syriennes et irakiennes qu'ils occupent. Pour plus de précisions, Nathalie Barge a joint à Paris Georges Malbruno, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient, au journal Le Figaro.
Daesh n'est pas financé par des pays du Golfe en tant que tel, mais Daesh a reçu des financements privés qui venaient de pays du Golfe. Ça s'est fait effectivement, je pense, sans l'assentiment des autorités, mais est-ce que les autorités saoudiennes, koweïtiennes, hein, qui sont, d'après les Américains, l'épicentre du financement du djihad, est-ce que ces autorités, même qatariennes aussi, ont fait tous les efforts nécessaires pour éviter ces financements? La question peut rester posée, à mon avis. Daesh a été financé au début par des donations privées, ensuite par des ventes de pétrole, par du trafic d'objets d'art, d'antiquités, et puis maintenant par les impôts, taxes, extorsions de fonds auxquels Daesh s'adonne en Irak et en Syrie. Donc Daesh prélève un certain nombre de taxes sur les camions qui transitent entre la Syrie et l'Irak, qui transitent en Irak, prélève des taxes sur les marchandises qui rentrent, et donc ces taxes, ces extorsions de fonds constituent une des principales sources de revenus aujourd'hui pour Daesh, qui a réussi justement à autonomiser ses sources de financement et à remplacer justement les donations privées qui venaient des pays du Golfe dans les années 2012-2013 et qui aujourd'hui se sont taries en raison de la pression qui a été exercée sur ces pays du Golfe, en particulier par les États-Unis.
Et quant à la contrebande du pétrole?
Les Américains, semble-t-il, ont changé un petit peu leur stratégie. Ils ont frappé les installations pétrolières Daesh, mais en Syrie, par exemple, ils hésitaient à les détruire dans la mesure où ces installations font partie de l'État syrien. Or, vous savez que dans le plan de transition qui est envisagé, les institutions de cet État syrien doivent être préservées intactes. Mais aujourd'hui, les Américains ont intensifié ces dernières semaines leur bombardement contre ces installations pétrolières.
Tout cet argent transite forcément par des banques. À un moment donné, comment se fait-il que l'on ne parvienne pas à les localiser, à localiser ces trafics?
Essentiellement parce que l'essentiel de ce trafic se fait en cash. L'économie de Daesh est une économie qui vit sur le cash, sur l'argent liquide. Donc il est plus difficile, évidemment, d'empêcher des transferts de fonds liquides que lorsque ces transferts se font via les réseaux bancaires. C'est une des grandes raisons pour lesquelles la traque financière contre Daesh est difficile.
Georges Malbruno, grand reporter au journal Le Figaro, joint à Paris par Nathalie Barge.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur les attentats du 13 novembre à Paris. La nouvelle stratégie d'attaque à l'extérieur du groupe État islamique marque-t-elle un tournant dans la guerre contre le terrorisme? L'OTAN va-t-elle être mobilisée? Des troupes au sol seront-elles cette fois-ci déployées? Quelles en sont les conséquences pour les réfugiés? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Tchad, la rencontre de mardi entre les partenaires de l'éducation nationale et le ministre des Finances et du Budget n'aura pas suffi. La Confédération des syndicats des enseignants du Tchad persiste dans son mouvement de grève jusqu'à satisfaction totale de ses revendications. Les précisions d'André d'André Kodmajingar.
Pour soutenir leurs enseignants en grève depuis le 11 novembre dernier, pour exiger du gouvernement le versement de leur salaire à terme échu et le paiement de leur prime des examens et concours de l'année 2014-2015, les élèves des établissements publics ont perturbé le cours dans les établissements privés de la capitale au début de la semaine. À pied et à bord des engins à deux roues, ces élèves se sont répartis en petits groupes pour empêcher leurs condisciples à faire cours. Il a fallu l'intervention des éléments du groupement mobile d'intervention de la police pour les disperser avec les gaz lacrymogènes et canons à eau. Pour des mesures de sécurité, les responsables des établissements privés ont fermé hermétiquement leurs portes depuis lundi dernier. Le gouvernement sort de son silence une semaine après ce débrayage qui a paralysé le système éducatif tchadien. Garlena Dogdjengar est le ministre des Finances et du Budget.
Nous avions payé la totalité du salaire du mois d'octobre. Pour les primes des examens et concours, à notre avis, tout est payé, mais nous avions été informés de quelques poches de deux ou trois régions où il est difficile pour nos receveurs sur place d'avoir de l'argent et nous avions déjà fait faire des transferts de fonds. Donc d'ici demain, tout sera rentré dans l'ordre. Il faut dès à présent que le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Finances et la centrale syndicale et l'association des parents d'élèves se retrouvent pour qu'ensemble, nous jetons les bases d'une stratégie afin que d'ici mars 2016, dès lors que le jury des examens puisse être constitué, nous mettions à la disposition du ministère de l'Éducation des sommes nécessaires pour le paiement des frais des examens et concours.
Pour le secrétaire général adjoint de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad, Mohamed Nasraddin Moussa, la grève ne sera levée que si le dernier enseignant aura gagné son salaire du mois d'octobre 2015 et ses primes des examens et concours de l'année 2014-2015.
Nous avons vérifié cette information, mais jusqu'à là, 4 régions n'ont pas encore gagné leur salaire et 5 autres régions n'ont pas encore gagné leurs primes des examens et concours. Donc, on va se mettre en contact avec les régions qui n'ont pas perçu jusqu'à là. Et s'ils nous confirment qu'ils ont eu leur salaire et les primes des examens et concours, en ce moment, on va appeler les travailleurs à reprendre leur travail. On est obligé de faire ça, il n'y a pas d'autre solution. Avec ce que nous gagnons même là, vraiment, on ne peut pas joindre les deux bouts. Combien de fois maintenant attendre 48 jours, 50 jours pour avoir le salaire? Pour aller au travail, il faut des moyens pour se déplacer. Il faut des moyens pour nourrir les enfants.
André Kodumadingar, Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
La société civile burkinabé reconnue pour son travail exemplaire, le réseau ouest-africain de défenseurs des droits de l'homme a décerné à ces organisations burkinabé le prix ouest-africain du défenseur de droits de l'homme de l'année 2015. Alidou Ouédraogo du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, pour lui ce n'est pas une surprise.
En vérité, ce n'est pas une surprise. Parce qu'à un moment donné, de la lutte et de l'engagement des organisations non gouvernementales ou des personnalités qui animent ce genre d'organisation, c'est une reconnaissance qui aide à mieux renforcer les capacités des membres, à mieux amener ces membres à s'engager pour l'installation de structures démocratiques susceptibles effectivement d'aider à créer le développement et à créer des espaces de liberté, à lutter contre les atteintes aux droits humains. Je pense qu'au Burkina Faso, c'est ce que nous avons fait depuis les années 80 et ils l'ont montré, ces associations-là, à plusieurs reprises. D'abord, à l'occasion de l'assassinat craquillé de Novel Zongo, ensuite en octobre, avec l'insurrection des 30 et 31 octobre, et finalement en septembre, avec le coup d'État raté, orchestré par le général Djibril. Donc, venant ainsi, toute modestie gardée, je pense que c'est une reconnaissance qui vaut d'être saluée, parce que ça va créer de l'humiliation. À la veille de la préparation de ces élections jumelées présidentielles législatives de novembre 2015.
Alors, on a constaté que ces dernières années, le paysage des organisations de la société civile s'est beaucoup diversifié. Un mot là-dessus?
Par exemple, à la veille de ces élections couplées, nous avons des organisations chrétiennes. Ils apparaissent comme des organisations d'interface entre la société civile et les partenaires techniques et financement. Je vais parler de Diakonia et de NDI. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs organisations, comme le MDHP, le Valet Citoyen, le RAJ, la PEPDA, qui effectivement ont mérité la confiance de ces institutions-là et ont pu fédérer ces synergies-là et sont ensemble justement de monter la stratégie de citoyen commun pour pouvoir effectivement réussir cette élection qui ne sera pas comme les autres et cela répond à une situation exceptionnelle. Et il faut saluer cet aspect.
Est-ce que, si on comprend bien, est-ce que vous comptez jouer un grand rôle lors de ces élections?
Oui, la Convention des organisations non gouvernementales de la société civile CODEL va lancer sur le territoire électoral près de 6 000 électeurs, des organisateurs piqués, des TVT, des organisateurs mobiles. Et ensemble, on va cadrer le territoire, voir ce qui se passe dans le bureau de vote, suivre et observer les élections de façon originale et inédite.
C'était Alidou Ouédraogo du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, joint par Bagassi Koura. Aujourd'hui, merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Tatiana Mosso à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.